Bonsoir, merci d'être là pour ce troisième mardi d'éthique publique de l'année. Bonsoir à vous qui êtes présents au Centre Sèvres, bonsoir aux auditeurs de RCF qui nous écoutent, bonsoir également à tous ceux qui, en région, dans diverses villes de France, sont également présents pour suivre notre débat de ce soir, un débat intitulé « L'entreprise a-t-elle une âme ?». Cet automne, l'entreprise était à l'ordre du jour du Parlement. Un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dit loi PACTE, a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Cette loi ambitionne de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Son passage devant le Sénat était prévu en janvier 2019 si d'autres priorités ne s'imposent pas d'ici là. L'évolution législative, qualifiée par certains observateurs d'un peu fourre-tout, a été précédée d'une réflexion en profondeur sur la nature même de l'entreprise menée depuis plusieurs années par des économistes et des sociologues. Et l'un d'entre eux est avec nous ce soir. Les interrogations ont porté en particulier sur la nature de l'entreprise, dont la conception et l'image ont été impactées depuis les années 1980 par une vision financière qui fait de l'entreprise une simple catégorie juridique, propriété de ses actionnaires, et destinée avant tout à faire du profit. Or, tel n'est pas le cas. L'entreprise, mais cela sera précisé et sans doute rectifié par la suite, est une entité humaine, d'où la question un peu provocatrice, l'entreprise a-t-elle une âme, associant des personnes qui apportent pour certaines du capital, pour d'autres leur travail, et qui créent un acteur social dont la finalité ne saurait se résumer au seul profit. La loi PACTE se propose ainsi de donner aux entreprises une raison d'être, un objectif noble qui n'est toutefois pas partagé par tous. Dans un article publié hier dans le quotidien Les Échos, Jean de Belot, président d'Aria Partners, critiquait une ambition qui démultiplie les missions sociales des entreprises en défaussant l'État de responsabilités qui sont d'abord les siennes et qu'il est devenu incapable d'assumer. On peut toujours, concluait Jean de Belot, multiplier les raisons d'être des entreprises. Si l'État ne sait pas redéfinir la sienne, les chances de redresser le pays et son économie sont chaque jour un peu plus faibles. Voilà qui nous ramène à l'actualité et à quelques tuniques jaunes qui seront sans doute présentes dans notre débat. Pour nous éclairer ce soir sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir, et je les remercie de leur présence, Monsieur Olivier Favreau, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Nanterre, co-directeur avec le père Baudouin Roger du département économie et société du Collège des Bernardins, au sein duquel un groupe de recherche a produit un rapport remarqué sur la réforme des entreprises, et vous aurez sans doute l'occasion de nous en parler. Et puis Monsieur Gilles Vermeaud-Desroches, directeur du développement durable à Schneider Electric et vice-président de Global Compact. Je signale dès à présent que Monsieur Favreau a donné à la revue Études, partenaire de ces mardis d'éthique publique, un entretien avec le père François Hevé, réformer l'entreprise, dans le numéro de septembre de la revue Études. Je rappelle également que cette soirée est organisée en partenariat, exceptionnellement, avec le MCC. Et c'est Monsieur Olivier Favreau qui prend le premier la parole.
Bien, bonsoir. Eh bien, je suis ravi de participer à ce débat et je remercie François Hevé et Jean-Luc Pontier pour cette invitation à parler de l'entreprise. À vrai dire, on échangeait quelques mots sur ce sujet juste avant de commencer. Le contexte général n'est plus autant centré sur la réforme de l'entreprise qu'il y a quelques semaines. Mais bon, on va essayer de s'abstraire du bruit et de la fureur de l'actualité la plus immédiate. Alors, pour s'intéresser à la question de l'entreprise, parce que précisément sur ce sujet-là, on vit en France une période extrêmement intéressante. Il y a une sorte d'effervescence, d'ébullition, j'ai même envie de dire, intellectuelle, sans se limiter au milieu intellectuel, depuis pas si longtemps que ça, je dirais depuis 5-6 ans. J'ai énuméré tous les endroits de la société française où, brusquement, commence à émerger une pensée nouvelle de l'entreprise. Alors d'abord, il y a des initiatives, souvent solitaires, mais parfois spectaculaires, de grands dirigeants. Je pense à Louis Gallois dans son pacte de compétitivité, donc ça c'était il y a pas tout à fait 6 ans, qui recommandait comme mesure numéro 1 pour renforcer la compétitivité de l'économie française, de faire rentrer les salariés dans les conseils d'administration jusqu'à concurrence d'un tiers. Et à peu près au même moment, Jean-Louis Beffa, président maintenant honoraire de Saint-Gobain, publiait un petit opuscule avec un juriste qui est un plaidoyer en faveur justement de la codétermination. Là, ces jours-ci, Antoine Frérot, un autre grand dirigeant de Veolia, qui nous a beaucoup accompagnés et aidés au Collège des Bernardins et qui maintenant dirige l'Institut de l'entreprise, vient de publier un document très intéressant que vous trouverez sur Internet qui s'appelle « L'entreprise post-RSE ». Donc vous voyez là du côté des dirigeants, alors d'abord il y a aussi dans le monde politique, il faut quand même se souvenir de l'originalité de la loi sécurisation de l'emploi qui a été votée en juillet 2013 et qui était la reprise d'un accord national interprofessionnel et donc qui résultait d'une longue discussion entre les syndicats, salariés ou patronaux. Et qui avait introduit pour la première fois en France, dans les grandes entreprises privées, alors sous une forme évidemment un peu minimale, un salarié, dans les conseils d'administration, encore une fois, des grandes entreprises privées. Passons maintenant du côté syndical. L'évolution de la CFDT est vraiment spectaculaire. En l'espace de quelques années, la revendication d'un changement du modèle d'entreprise, non pas en s'appuyant sur l'idée ancienne de l'autogestion, mais justement l'idée de la co-gestion, de la co-détermination, et maintenant pratiquement leur revendication numéro 1. Il y a aussi, c'est aussi évidemment à ce titre que je suis ici, enfin j'imagine, une accumulation de travaux universitaires ou de travaux de praticiens qui réfléchissent sur leur discipline. Je pense en partie à des juristes qui sont des avocats dans des cabinets d'affaires. Je vous donne quelques noms qui ont joué chacun de leur côté de façon isolée, avec beaucoup de personnalité et parfois de courage. Un rôle vraiment pionnier, Daniel Hurstel, Jean-Philippe Robé, Christophe Clerc. Alors il y a des économistes aussi, un que vous entendez, j'imagine souvent ici, Gaël Giraud. Souvent avec Cécile Renoir, des sociologues. Je pense à une sociologue très talentueuse à l'Université catholique de Louvain, Isabelle Ferreras. Il y a aussi toute une réflexion, alors là, très très générale, au-delà de la situation de l'entreprise, sur la notion de commun, mais bien sûr, ça peut s'appliquer à l'entreprise. Et puis, il y a aussi, j'ai certainement oublié, je m'en excuse, d'autres contributions. Il y a cette recherche collective qui a émergé au Bernardin à partir du début de l'année 2019, qui a été renouvelée 3 fois, c'était 3 cycles de 3 ans, que j'ai eu l'honneur de copiloter avec le père Baudouin Roger, que l'on a mentionné, puisqu'au Bernardin, les activités de recherche sont copilotées par un théologien et puis un laïc universitaire. Et donc là, c'était un groupe d'une trentaine de chercheurs ou de praticiens, donc de presque toutes les disciplines qu'on peut imaginer, droit, gestion, anthropologie, économie, philosophie politique. Et je vais évidemment m'appuyer sur ce corpus de travaux pour vous dire quelques mots et essayer de répondre à la question, bien que je ne sois pas théologien, l'entreprise a-t-elle une âme ? Et puis enfin, la dernière chose qu'il faut, et que Jean-Luc Pontier a mentionné, c'est que l'exécutif actuel a repris à bras-le-corps la question de la nature de l'entreprise. Il y a, même si on en parle un petit peu moins en ce moment, il y a eu une préparation très très sérieuse du projet de loi PACTE avec un rapport qui a donné lieu à énormément d'auditions, pilotée par Nicole Notta et Jean-Dominique Sénard, donc une syndicaliste bien connue, une ancienne syndicaliste bien connue, et puis le président de Michelin. Et ce rapport, que je vous conseille aussi, que vous le trouverez sur Internet, d'aller consulter, c'est un travail absolument remarquable, et je pense que c'est la meilleure introduction que l'on puisse imaginer au débat actuel sur l'entreprise. Donc du coup, dans ce que je vais dire maintenant, en m'appuyant sur les idées qui ont émergé d'un travail finalement de longue durée au Bernardin, je vais faire un aller-retour entre certaines dispositions de la loi PACTE sur lesquelles du coup je peux peut-être apporter un éclairage un peu différent, et les propositions que nous avons sur lesquelles auxquelles nous avons abouti. Ces propositions, je le signale au passage, voilà, viennent d'être résumées, donc 9 ans de recherche, dans un petit livre qui vient de paraître aux éditions Hermann, qui s'appelle « Gouvernement, participation et mission de l'entreprise » et qui a été rédigé par 2 jeunes membres de notre groupe, Blanche Segrestin, qui est professeure de gestion à l'École des Mines, et Stéphane Vernac, qui est maître de conférence en droit privé à l'université d'Amiens. Donc je vais m'appuyer, mais enfin, à vrai dire, j'ai vécu tout cela pendant 9 ans. Alors, pour me résumer, il y a une idée centrale et 2 propositions de réforme auxquelles nous avons abouti au terme de ces 9 ans de travail. Alors, l'idée centrale, eh bien, c'est une forme de paradoxe. Si on veut réfléchir sérieusement, et pas uniquement en intellectuel, en chercheur, en théoricien, en économiste, y compris en citoyen, si on veut réfléchir sérieusement sur l'entreprise, il ne faut pas une notion, mais 2. Il faut d'abord définir société, ou société anonyme, ou société de capitaux. Alors ça, c'est quelque chose de super précis. Les juristes vont vous dire, voilà, c'est la personne juridique qui a été créée au moment de la fondation de l'entreprise par les premiers actionnaires. Font partie de la société exclusivement les actionnaires. Alors par exemple, vous notez tout de suite ceci, les salariés ne font pas partie de la société. Ça, c'est la première notion extraordinairement précise et tranchante. Mais évidemment, si avec les actionnaires, il ne se passerait pas grand-chose dans les entreprises. Et donc justement, je viens à la deuxième notion, pour laquelle le vocabulaire est un peu libre, parce que là, c'est pas une notion juridique. Je vais reprendre le langage le vocabulaire commun, je vais parler d'entreprise, mais vous pouvez parler de firme, etc. Alors là, c'est le reste. C'est l'organisation économique. Là, je suis obligé d'utiliser ces termes généraux, où vous allez trouver... Alors, vous pouvez reprendre, bien sûr, les actionnaires pour que le tableau soit complet, mais vous allez ajouter les salariés, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients, ça dépendra de votre théorie de l'organisation, les banques, les créditeurs, les collectivités publiques, les voisins, les syndicats, les générations futures. Et là, outre le fait que ça n'est pas une notion juridique, vous voyez que sa composition est quasiment indéterminée. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais peut-être que, en tout cas dans le débat, je vous raconterai la période où, par exemple, les salariés ne faisaient même pas vraiment partie de l'entreprise, sachant que, de toute façon, ils ne font pas partie de la société. Alors, ça, c'est vraiment... voilà. Et malheureusement, c'est aussi le béaba. Alors, cette tension entre ces deux entités, une qui est petite, très petite, et l'autre qui est extrêmement large et indéterminée, pose 2 problèmes. Alors le premier problème, je vais le dire simplement, c'est que vous avez un énorme ensemble, cette organisation économique avec toutes ses parties prenantes, c'est le langage qu'on utilise et qui n'est pas si mal que ça, cet énorme ensemble est piloté, gouverné, le terme gouvernement d'entreprise a fini par s'imposer, il est gouverné par un sous-ensemble à l'intérieur de ce grand ensemble, qui ne correspond qu'à une seule partie prenante, ce sont les actionnaires, enfin gouvernés par l'intermédiaire des instances dirigeantes, Assemblée générale et Conseil d'administration. Alors vous pourriez me dire, vous devinez qu'il y a quand même un petit problème au XXIe siècle, où toutes les sociétés civilisées sont quand même travaillées par l'exigence démocratique. Mais vous pourriez dire, bon, société, entreprise, tout ça peut-être, cette distinction a peut-être un caractère un peu académique. Eh bien, je vais aller dans ce moment-là un instant dans ce sens. Ok, on ne fait pas la distinction. Vous ne faites, ne faisons pas la distinction entre société et entreprise. À ce moment-là, les actionnaires, qui sont propriétaires de leur action, là, personne ne peut le contester, si vous effacez le voile que constitue la personnalité morale de la société, deviennent propriétaires de tous les actifs productifs de l'entreprise. Donc les actionnaires deviennent propriétaires de l'entreprise et à ce moment-là, eh ben, ils sont en droit d'exiger que l'entreprise travaille, crée essentiellement de la valeur pour eux. Or ça, c'est évidemment faux, puisque bien sûr la personne morale de la société existe, et c'est même deux fois faux. Les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Je répète ce que mes collègues juristes m'ont appris, parce que je l'ai découvert il y a quelques années, bien que ce soit la base d'un cours de première année de droit des sociétés, ou que ce soit dans le monde. Les actionnaires ne peuvent pas être propriétaires de l'entreprise, puisque l'entreprise n'est pas une catégorie juridique. Alors les juristes ont beaucoup de défauts, mais ils sont précis dans l'utilisation du langage, et si quelque chose n'est pas défini en droit, vous pouvez très difficilement en être propriétaire. Alors, on peut se replier en disant, bon, d'accord, pas propriétaire de l'entreprise, ça ne marche pas très bien, mais ils sont propriétaires de la société. Mais propriétaire de la société est une personne morale. Il y a deux sortes de personnes en droit, il y a des personnes physiques, vous et moi, et puis il y a des personnes morales, de droit public et de droit privé. Peut-on être propriétaire d'une personne ? Question intéressante. Propriétaire d'une personne physique, ça va s'appeler l'esclavage. Propriétaire d'une personne morale de droit public, comme mettons l'État français, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, mais ça ressemble au totalitarisme, au clanisme, etc. Eh bien, vous voyez, quand on dit que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, on commet cette erreur de catégorie qui heurte nos principes métaphysiques vraiment les plus fondamentaux. Alors, vous voyez, il y a une erreur magistrale. Alors, vous pourriez me dire, mais attendez, le Collège des Bernardins vous a supporté, aidé, financé pendant 9 ans pour, d'après vous, en fait, simplement mobiliser le béaba du droit des sociétés, que vous soyez aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Pologne ou en... Eh bien, oui. Parce que figurez-vous que ce que je viens de dire sur cette erreur juridique, la propriété de l'entreprise par les actionnaires, c'est ce qui est enseigné dans toutes les business schools de la planète depuis les années 70, en partant de l'université de Chicago, Milton Friedman. C'est ce qui a engendré toute la théorie économique et toute la théorie financière contemporaine, avec au moins une demi-douzaine de prix Nobel. Donc nous sortons d'une période de 40 ans de domination d'une certaine culture anglo-saxonne qui avait bien vu comment tirer parti de cette monstruosité juridique, mais qui n'avait pas été interrogée jusqu'à présent. Les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise. Et cette erreur de catégorie, et qu'on va corriger à partir de maintenant, en distinguant soigneusement société et entreprise et en se posant le problème de comment combler l'écart ou la distance entre les deux, cette erreur-là, c'est l'infrastructure intellectuelle de tout le processus de financiarisation qui, à partir du monde anglo-saxon, a envahi toute la planète à partir des années 70 et 80. Alors voilà l'idée générale. Vous voyez qu'elle est très générale. Elle est tellement simple qu'on peut la dire en quelques mots, tellement fondamentale qu'on est un peu gêné de la répéter, mais encore une fois, et aujourd'hui encore, c'est ce que l'on enseigne dans la plupart des business schools, avec tous les effets intellectuels, culturels et idéologiques que cela peut produire. Alors maintenant, les deux propositions sur lesquelles notre recherche collective en 9 ans a débouché. Et au fond, tout nous pousse dans comment combler cet écart choquant entre un petit sous-ensemble, celui des actionnaires, qui pilote ce grand sous-ensemble, qui regroupe toutes ces parties prenantes. Alors, nous avons mis l'accent sur deux choses. Premièrement, ce qui s'appelle la codétermination. On disait autrefois la cogestion, mais c'est une mauvaise traduction du terme allemand qui a été souvent mis en avant pour caractériser la codétermination, c'est-à-dire la présence, mais vraiment significative, des salariés dans les conseils d'administration. La deuxième grande réforme, alors ce sont ce qu'on appelle les entreprises à mission, mais je vous en parlerai, ça me permettra aussi de dire quelques mots sur la question de la définition de l'entreprise dans le code civil, là qui est un domaine sur lequel nous n'avons pas beaucoup travaillé. Là, ce sont plutôt les noms que j'ai mentionnés tout à l'heure. Voilà, c'est donc ce que je vais faire maintenant. Je vais commenter rapidement ces deux thématiques. Et à chaque fois, je vous dirai quels sont les échos qu'on peut en trouver ou les traces qu'on peut en trouver dans la loi Pacte. Alors d'abord, la codétermination. Alors, je vous dis simplement le problème. Si les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise, alors on doit se poser la question sur pourquoi est-ce qu'ils monopolisent la désignation des représentants au conseil d'administration. Qu'ils aient des représentants, c'est l'évidence. Mais pourquoi devraient-ils être les seuls à désigner des représentants ? Il est choquant, je dirais presque d'un point de vue de la philosophie politique, que les gens qui sont le plus directement concernés par le fonctionnement de la société dans l'entreprise n'y soient pas représentés. Je mentionne les salariés, on pourrait mentionner d'autres parties prenantes. Donc ça, c'est un premier point, donc on a réfléchi d'une façon théorique. Et à ce moment-là, dans notre groupe, où il y avait beaucoup de juristes, il y a brusquement un souvenir qui est remonté à la surface, le souvenir des années 70. Et pour beaucoup d'entre nous, en tout cas tous les non-juristes, ça a été une source de stupéfaction. Eh bien, en réalité, dans l'Europe continentale actuelle, la moitié des pays d'Europe pratiquent un système ou un autre de codétermination. Et en gros, alors on donne toujours l'exemple de l'Allemagne, qui le pratique sous une forme particulièrement forte. En gros, la moitié du conseil d'administration, alors c'est le conseil de surveillance, mais là la distinction est secondaire, la moitié de cette instance dirigeante, mais avec un seuil d'application élevé de 1000 salariés. Mais dans tous les autres pays, donc plus d'une dizaine, en particulier tous les pays scandinaves, tous les pays de l'Est, ou presque tous les pays de l'Est, entrés dans l'Union européenne après la chute du mur de Berlin, là, la règle, c'est un tiers du conseil d'administration, je simplifie beaucoup des dispositifs qui sont très variés, un tiers du conseil d'administration, mais avec des seuils très bas, par exemple dans le cas du Danemark, 35 salariés. Donc je répète, à partir de 35 salariés, au Danemark, qu'on nous cite souvent en exemple, en oubliant toujours très soigneusement la référence à la codétermination, les conseils d'administration incluent les salariés à côté des représentants des actionnaires. Le dernier commentaire que je voudrais faire, avant de vous dire ce qu'il en est dans la loi Pacte, c'est que, alors il y aurait énormément de choses à dire sur la codétermination, mais il est clair que de toutes les réformes structurelles auxquelles on peut penser pour débloquer, mettez des guillemets sur cette expression, la société française, si vous pensez qu'elle est bloquée, celle-ci serait la plus puissante. Parce que quand on y réfléchit, faire rentrer de façon vraiment significative un tiers ou la moitié des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises françaises, rien ne ferait plus bouger le patronat français, les syndicats, mais aussi le citoyen de base. Après tout, 80% des actifs sont des salariés. Alors, dans la loi Pacte, la loi Pacte n'est pas encore votée. Elle a été votée, on vous l'a dit, en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle est transmise au Sénat, vous pourriez le trouver sur Internet. Alors, l'article clé, c'est l'article 62, et qui dit cette chose, qui est évidemment un peu énigmatique, dans tel article du droit des sociétés, le chiffre 12 est remplacé par le chiffre 8. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire. En ce moment, en France, depuis la loi Rebsamen, il y a un salarié dans les conseils d'administration qui comprennent moins de 12 salariés. Et deux ensuite. Eh bien, voilà, la loi Pacte fait prend cette initiative spectaculaire de faire descendre le moment où on passe de 1 à 2 salariés dans les conseils d'administration au chiffre 8. Voilà, entre 8 et 12 désormais. Voilà l'innovation, évidemment, qui n'est pas foudroyante, apportée par la loi Pacte. Et pour en discuter, là, je pense qu'il y a une occasion, enfin, ça a été la réaction de Laurent Berger en particulier. Là, il y a une occasion vraiment ratée de moderniser en mettant sans doute beaucoup de précautions et en prévoyant des périodes de transition, certainement, mais de moderniser d'une façon vraiment significative, le système de relations professionnelles français. Alors, deuxième et dernière rubrique, je vais mêler ce qui figure maintenant dans la loi, les entreprises à mission sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé et la définition de l'entreprise. Je reviens toujours à mon théorème négatif, l'entreprise n'est pas la propriété des actionnaires. Bon, ok, c'est acquis, mais vous voyez bien que si elle n'est pas la propriété des actionnaires, on peut se demander, mais alors, au service de qui doit-elle travailler? C'est la question des objectifs, des critères d'évaluation de l'entreprise. Alors, on va revenir au Code civil. Que dit le Code civil? Article 1833. Et donc là, les commentaires, je vais faire très, très rapidement. Donc c'est des questions qui nous ont intéressés, mais sur lesquelles ce n'est pas nous qui avons travaillé au Bernardin, mais beaucoup d'autres chercheurs, notamment Gaël Giraud et Cécile Renoir. Voilà ce que dit l'article 1833 actuel. La société est constituée dans l'intérêt commun des associés. Voilà ce que devient aujourd'hui le nouvel deviendrait cet article. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est évidemment la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité, ce qui veut dire d'une certaine façon que la RSE rentre à l'intérieur de la définition de l'entreprise, même si le terme « prenant en considération » est un terme relativement faible. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que, vous voyez, il s'agit de combler l'écart entre la société et l'entreprise, et là, il est fait de façon un peu minimaliste, mais il est quand même suggéré que l'intérêt de la société, l'intérêt social, ne se réduit pas à l'intérêt des associés, c'est-à-dire des actionnaires. Alors, tous les juristes diront, tel que c'est formulé, même si ça n'est pas spectaculaire, ça consacre en réalité la jurisprudence de la Cour de cassation en France, et donc personne ne peut dire que l'intérêt de la société anonyme, se réduit à l'intérêt des actionnaires. Mais enfin, on aurait pu le dire de façon un petit peu plus forte. Alors je vous signale qu'il y a eu une proposition de loi parlementaire du groupe Nouvelle Gauche qui a été discutée et renvoyée en commission au mois de janvier et qui voulait traduire au fond la même idée mais d'une façon beaucoup plus forte. Et la formule était la suivante. Et elle était évidemment infiniment plus parlante. La société est gérée dans l'intérêt de l'entreprise. Là, on comprenait immédiatement qu'on traitait, au fond, la distinction entre société et entreprise. Et on faisait rentrer, par la grande porte, la notion d'entreprise à l'intérieur du droit. D'ailleurs, vous voyez, on dit droit des sociétés. Nous n'avons pas encore de droit de l'entreprise. Et au fond, la loi Pacte est un premier pas timide vers la constitution d'un droit de l'entreprise. Alors, pour terminer, je vais dire quelques mots sur les entreprises à mission, mais qui, évidemment, découlent directement d'une réflexion, forcément, sur la nature de l'entreprise. Alors là, le groupe des Bernardins, et en particulier tous mes collègues chercheurs en gestion à l'École des Mines, ont été extrêmement créatifs et productifs sur ce sujet. Et une grande partie de leurs idées vont se retrouvent à l'intérieur de l'état actuel de la loi Pacte. Alors l'idée est la suivante. L'idée est que il faut protéger les directions d'entreprise qui, contre peut-être des actionnaires un petit peu trop gourmands, qui souhaitent que leur entreprise, leur société, puisse poursuivre des objectifs d'intérêt général. Donc il faudrait pouvoir créer un statut différent d'entreprise dite à mission ou à côté de la satisfaction légitime des intérêts des actionnaires, on ajouterait une mission d'intérêt général que l'on ferait valider, bien sûr, par les actionnaires avec des conditions exigeantes et dont on ferait suivre l'application par un comité spécial. Alors, qu'a décidé, là, la loi PACTE, je vais prendre quelques instants, si j'ai encore le temps, peu de temps, mais juste quelques instants pour entrer un petit peu dans le détail, parce que là, la loi PACTE a réalisé un vrai pas en avant. Il est décidé, en fait, deux choses. En fait, on ne va pas créer un nouveau statut d'entreprise à mission. Ça va être simplement la possibilité pour les entreprises, même ordinaires, de modifier leur statut pour y faire rentrer à l'intérieur la précision d'une mission. Mais on va créer, alors ça vient directement de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Nota, on va créer une notion intermédiaire, une notion relais très intéressante, qui est la notion de raison d'être. Alors voilà ce que dirait le nouvel article 1835 du Code civil. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc là, on invite, mais ça n'est encore qu'une option, les entreprises à préciser leur raison d'être, c'est-à-dire ce qu'elles veulent apporter à l'économie et à la société environnante. Et alors, précision supplémentaire, ça c'est le Code du commerce, soyons précis, c'est-à-dire ça serait le nouvel article 210 du Code du commerce, constituerait à ce moment-là une société à mission, une société qui s'est déjà dotée d'une raison d'être, mais qui préciserait à l'intérieur de ses statuts, alors là de façon beaucoup plus précise, quels sont les objectifs supplémentaires d'ordre social, économique, écologique qu'elle voudrait suivre, et qui préciserait aussi l'organe distinct du conseil d'administration ou de surveillance qui surveillerait l'application de cette mission. Alors là, le progrès, notamment sur un plan symbolique, est extrêmement important, même si, bien sûr, vous voyez, tout cela est optionnel. Là, la législation française prendrait un grand pas d'avance, y compris par rapport à des initiatives qui se sont déjà faites aux États-Unis sur ce point. Alors voilà, pour conclure, vous voyez, donc je reviens à la loi PACTE, il y avait une possibilité d'une réforme structurelle extrêmement profonde, bon, pour le moment, et, disons, mise de côté. En revanche, va être mise en œuvre une réforme symbolique, certes optionnelle, mais de très grande ampleur, simplement qui ne devrait produire des effets, évidemment, qu'à très très long terme. Donc je pense que j'ai largement exploité mon temps de parole. Oui, et donc je conclurai simplement d'une phrase. Pour résumer au fond mon propos, malheureusement je vais le formuler de façon négative, mais le prochain intervenant pourra peut-être le remplir de façon encore plus positive. Je dirais que finalement, le bilan pour nous, et en tout cas de la façon dont j'ai voulu vous présenter les résultats de la recherche, cette recherche collective de longue durée au Bernardin, et aussi telle qu'elle se retrouve pour partie dans la loi PACTE, je pourrais le résumer de la façon suivante. Tant que l'entreprise sera gouvernée par la société, eh bien, elle n'a pratiquement aucune chance d'avoir une âme, sauf miracle. Un PDG exemplaire, avec un conseil d'administration absolument exemplaire, composé de gens altruistes. Tout cela n'est pas exclu dans la réalité. Enfin, en gestion, on a l'habitude de ne pas trop compter sur les miracles.
Merci, ça marche. Merci Olivier Favreau de cet exposé précis sur autour de la loi PACTE et des travaux que vous avez effectués. Je passe tout de suite la parole à un homme d'entreprise, Gilbert Baudéroche. J'ai envie de poser la question. Alors, je ne sais pas comment il a conçu sa présentation, mais serait-il d'accord avec la conclusion d'Olivier Favreau?
Réflexion. Probablement oui. d'autant qu'elle s'adresse aussi bien aux églises, aux associations, aux États qu'aux entreprises. Il n'y a pas de lieu miracle, pas plus, et l'actualité peut le montrer dans le monde ou ici, sur les autres formes d'organisation collective que sur la forme qu'est l'entreprise. Comment j'ai organisé mon intervention ? D'abord, je vous remercie de me faire intervenir. Moi, je ne suis pas un chercheur qui travaille sur ce sujet depuis très longtemps. Je suis un praticien d'une entreprise devenue mondiale qui s'appelle Schneider Electric, vieux fleuron français dont l'activité a bien changé entre sa création il y a plusieurs siècles où elle faisait des canons alors qu'elle vend aujourd'hui de l'efficacité énergétique pour réduire les émissions de carbone sur la planète. C'est la même entreprise avec une continuité de capital, lequel est ouvert. Je ferai peut-être deux petits exemples et je partirai de ces deux exemples pour parler de ma vision de cette question, l'entreprise a-t-elle une âme, et après j'essaierai d'être un peu descriptif, analytique et peut-être avoir une vision sur l'avenir. Je vais mettre mon téléphone, brûler un peu là, voilà. Le cours de l'action de Schneider Electric est aujourd'hui à 64 euros. Il était à 75 au mois d'avril et il est passé entre les deux à 56. Tous les salariés Schneider Electric suivent le cours de l'action de Schneider Electric. D'une part, parce que la plupart ont des actions de Schneider. Et parce que même s'ils ne sont pas propriétaires, si un nombre important d'actionnaires décidait de vendre leur action et donc de déprécier le capital de Schneider, qui est à peu près de 40 milliards, et que ce prix baisse en dessous de 45 euros, probablement qu'en très peu de temps, elle serait achetée par un autre. Je ne sais pas s'il en deviendrait propriétaire. Mais en tous les cas, il changerait profondément ce qu'est Schneider Electric. Premier tableau. J'y reviendrai. Deuxième tableau. La semaine dernière, j'ai eu la chance de représenter mon entreprise dans un petit village à 6 heures de route d'Abidjan pour y installer un mini réseau électrique à la demande d'une association de femmes qui s'appelle les Solar Mama. C'est un village de 6000 habitants qui n'a pas d'électricité avec toutes les conséquences que ça a sur la dure vie des femmes, le manque d'éducation, des problèmes de santé. Et Schneider Electric a mis ses équipes d'innovation depuis quelques années au service de cette question de l'accès à l'électricité d'1,5 milliard d'habitants qui aujourd'hui, au moment où nous parlons, sont dans la nuit parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Je ne sais pas si ça nous donne une âme, mais en tous les cas, c'est une action que fait mon entreprise, qu'elle a financée dans son investissement et qu'elle veut porter pour accompagner le développement de ce 1,6 milliard d'habitants, qui est d'ailleurs celui qui produit ou provoque, suivant qu'on soit pessimiste ou optimiste, la croissance de la population mondiale. Voilà, mais ces deux données me semblent bien repérer ce qu'est une entreprise aujourd'hui. L'une n'existe pas sans l'autre, et notre avenir est lié aux deux. L'entreprise a-t-elle une âme ? Alors je suis un peu catho. J'avoue que cette question m'a un peu interloqué. Alors en plus posée au Centre Sèvres, c'est plus qu'interloqué. Je me suis dit, ce qui est certain, c'est que si je faisais de la catéchèse et que j'avais en face de moi des enfants, et il y en a quand même très peu, même si j'enlève mes lunettes dans l'assistance de ce soir, mais il y a beaucoup de grands-parents, et donc je les imagine parler à leurs petits-enfants de qui poseraient la question « c'est quoi une âme ?» Je suis pas très bien sûr que ce qu'on pourrait dire à nos petits-enfants sur ce qu'est une âme pourrait, un de ces quatre, correspondre à l'image qu'on se fait d'une entreprise. Première remarque. En tous les cas, surtout si on se met à parler d'au-delà et de présence spirituelle. Bon, pour le premier sujet. Après, l'âme, c'est aussi ce qui anime. Au fond, il y a un principe de vie, puisque l'âme vient d'une étymologie liée au souffle. Alors, est-ce qu'il y a un souffle dans une entreprise ? Il y a un principe de pensée avec l'âme. On peut considérer qu'il y a une relation entre l'âme et pensée. Après, il y a un principe de l'immortalité. Alors ça, c'est clair que celui-là, si la question elle est de réduire l'idée de l'âme au principe de l'immortalité, je pense que malheureusement, l'entreprise n'a pas une âme. Même ces grandes entreprises qu'on a, quand on est français, plutôt l'habitude de vilipender que d'aimer. Amusez-vous à aller regarder, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quelles étaient les composantes du CAC 40 pour savoir qu'il n'y a pas d'immortalité dans la puissance d'une entreprise. Et que quand on les considère aujourd'hui tellement puissantes qu'inquiétante, eh bien, on peut regarder l'évolution du CAC 40 pour dire que de cette puissance, on passe vite de vie à trépas. Et je ne sais pas ce que devient l'âme à ce moment-là. Deuxième remarque. Troisième remarque, j'ai interrogé en particulier les jeunes de mon entreprise qui sont dans mon équipe. Moi, je suis en charge du développement durable chez Schneider Electric. On a une équipe assez vaste avec beaucoup de jeunes qui font des doctorats, des thèses, leur master, etc. Et cet après-midi, je leur ai dit, vous savez, je vais au centre SF ce soir. Il y en a même quelques-uns qui m'ont écrit quelques lignes. Et la question, c'est l'entreprise a-t-elle une âme? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est plutôt bien d'interroger les jeunes qui sont dans mon entreprise, parce que dans mon équipe, parce que justement, pour beaucoup de gens de Schneider Electric, l'équipe de développement durable et la politique de développement durable de Schneider Electric, c'est un peu son âme. D'autant qu'on est en charge des valeurs de l'entreprise, de comment on les écrit. On est en train de réécrire un document qui a maintenant 15 ans, qui s'appelle « Nos principes de responsabilité », que l'on fait signer à tous les collaborateurs de Schneider Electric quand ils rentrent dans l'entreprise et à tous les managers une fois tous les deux ans. Et donc, si la question c'est « est-ce qu'il y a un souffle qui nous anime ?», si la question c'est « avons-nous une identité ?», alors oui, on a une âme. Pour prendre les mots de l'entreprise, qui n'aimerait pas, quand elle est française, trop parler de l'âme pour ne pas trop toucher une laïcité complexe dans le monde de l'entreprise, on a l'habitude de dire souvent dans les entreprises devenues internationales que l'entreprise a un ADN. On parle souvent de l'ADN de l'entreprise. C'est une expression qui est aujourd'hui facilement utilisée, d'autant qu'elle est française, anglaise, et qu'elle est assez facilement transposable et que tout le monde la comprend. Et ça dit quelque chose. Parce que ça dit que le corps social entreprise peut changer, des morceaux peuvent être remplacés, semblerait subsister un ADN collectif d'une entreprise qui viendrait de loin et qui l'emmènerait vers demain. Peut-être que c'est la meilleure réponse à cette question en prenant un mot différent, parce que de fait, quand on parle d'âme, à mon avis, ça va très bien pour une personne physique. Se pose la question de l'utilisation de ce mot pour une personne morale. Alors c'est intéressant, moi j'ai été pendant 7 ans, il n'y a pas très longtemps, le président des Scouts et Guides de France, et au fond, si on posait la question, est-ce qu'une association a une âme, alors qu'une association comme une entreprise est une personne morale, je crois qu'il y aurait un grand nombre de personnes qui pourraient dire oui. Alors que si on pose la même question, est-ce que l'entreprise a une âme qui est aussi une personne morale, probablement que le nombre de personnes qui diraient oui serait très différent. On en tire comme première conclusion qu'on peut se mettre à penser qu'une personne morale a une âme, puisque je pense qu'assez volontiers, quand on prendrait plein d'associations, on dirait que oui, ces associations ont une âme, y compris dans leur histoire, et qu'au fond, on n'accorde pas cette âme à toutes les personnes morales de la même manière, et je trouve que c'est assez intéressant de pousser cette réflexion, même si je ne l'ai pas poussée. Voilà. L'autre sujet qu'on utiliserait souvent pour parler de ça dans une entreprise, en tous les cas dans la main et dans l'autre, c'est probablement le mot de sens. Et dans le travail Sénar Nota, que je n'épouse pas complètement, il y a une question plutôt liée de dire est-ce qu'il y a un sens dans l'entreprise. Et pas mal d'acteurs aujourd'hui qui disent que les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme ou un sens, et que l'entreprise de demain ne sera attractive pour les jeunes d'aujourd'hui que si elle sait partager son sens, meaningful comme on dit en anglais, qui est un mot et une notion assez poussée et qui correspond assez bien à la définition qu'on a du sens. C'était mon premier point un peu descriptif. Après, je reviens un peu à mes fondamentaux pour être assez simplifiant et probablement un peu à distance, même si je partage beaucoup des travaux qui ont été faits par Lire Bernardin, sur ma compréhension personnelle du sujet. À nouveau, l'équation de Schneider Electric est assez simple. Schneider Electric est une entreprise qui, pour vivre, a besoin d'un capital. Il se trouve qu'il est intégralement flottant, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire chez Schneider Electric. Il n'y a pas non plus de gens qui sont des acteurs de référence, comme pourrait l'être Pierre Belon à la Sodexo. Il a 60% des actions de la Sodexo, comme pourrait l'être un certain nombre de propriétaires de leur entreprise. Ça n'existe pas chez Schneider. À part les collaborateurs qui ont 6-7% du capital de Schneider Electric, réparti par les 160 000 collaborateurs, le reste est assez flottant et chaque personne qui a des actions peut décider, ou institut peut décider de les changer et de les vendre du jour au lendemain, d'où la difficulté que je disais par rapport au prix de bourse. Pour avoir entre 30 et 40 milliards, suivant les conjonctures collectives mondiales, de capital pour Schneider Electric, il faut que l'entreprise ait un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards avec 14% de bénéfices. On peut ne pas apprécier ça, on peut trouver que c'est pas bien, on peut trouver que ça soit différent. Il se trouve qu'aujourd'hui, à la fois les acteurs dans lesquels vous et moi nous mettons les quelques sous que nous mettons en épargne, et à la fois les acteurs internationaux possèdent le capital, si ce n'est pas l'entreprise de Schneider Electric, plus des deux tiers sont étrangers, attendent cette rentabilité-là pour rester dans cette entreprise-là, sinon ils la délaisseront pour une autre. Et je pense que, y compris dans la vision que j'ai moi en charge de la responsabilité de Schneider Electric et du développement durable, il n'est pas possible de sortir de cette équation si facilement. En tous les cas, pas seulement quand une entreprise le décide. Que tout à coup des mouvements de force mondiaux conduisent à sortir de cette équation qui, de fait, met le primat au capital, j'y suis tout à fait favorable, mais avant que l'exercice mondial avance sur le sujet, je ne suis pas sûr que un chemin solitaire de la France sur le sujet fasse beaucoup avancer le schmilblick et particulièrement les entreprises françaises, il y a quelques inquiétudes. La deuxième chose sur ce sujet, je reviens un peu à l'entreprise Atelunam. Je voudrais dire que la seule chose que je regrette dans le rapport Sénard-Nota, c'est qu'il ne pense pas du tout aux PME. Et qu'il n'a qu'une seule grande vision, c'est les très grandes entreprises et une vision des très grandes entreprises. Pas oublier qu'en France, il y a 3 500 000 entreprises. 95% ont moins de 10 salariés, dont 65% moins d'un salarié. Ce sont aussi des entreprises. Et en tous les cas, on peut plus facilement parler de l'âme de l'entreprise autour de l'âme de son dirigeant ou de son dirigeant propriétaire. Voilà une réalité bien particulière qui n'est pas embrassée dans le rapport Sénard-Nota qui pense trop à nos 40 grandes entreprises mondiales. Il y a seulement 1% des entreprises qui ont plus de 500 salariés et un pouillem intéressé par la question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose pour eux, mais j'aurais bien aimé que dans la vision qu'on a d'une réforme de la vision de l'entreprise, soient aussi embarquées, intéressées, engagées ces entreprises qui appartiennent. Parce qu'au fond, on peut vite avoir une entreprise, une vision sur l'entreprise mondiale, mais la question, c'est d'avoir une vision sur l'entreprise. Et je me demande s'il faut vraiment avoir une vision très différente entre la vision de la grande et de la petite entreprise. Au fond, si vous et moi, si mes 20 voisins ont décidé d'acheter une maison, un jardin au bout de notre rue, on en serait les propriétaires, et si tout à coup on embauchait 2-3 jardiniers, et puis qu'une fois par an on fasse l'assemblée générale de ce jardin qu'on a acheté ensemble pour savoir ce qu'on en fait, il n'est pas certain qu'on mettrait les jardiniers au milieu de la décision. Vous allez me dire, c'est un peu benêt que de convaincre ou de mélanger cette démarche-là, et puis une démarche d'une grande entreprise qui a 40 milliards de capital. Mais au fond, il y a quand même un point de commun entre la manière de porter l'un ou l'autre. Ça, c'est sur la première vision. La deuxième vision, si moi j'avais à faire une définition, alors elle est forte chez Schneider Electric. Henri Lachmann en a une qui est proche de celle-là, qui est l'ancien président de Schneider Electric et qui est connu par beaucoup d'entre vous. Pour moi, il me semble que le sujet essentiel, tout en disant comme... Olivier Favreau, qu'il y a eu un excès autour de Friedman et de la vision qu'on a de la seule bottom line de l'entreprise qui est de faire du capital pour l'actionnaire, ce qui est une erreur ou une incompréhension, y compris de ceux qui ont cette vision. La définition que je pourrais vous partager, c'est de dire l'entreprise est, dans l'ordre alphabétique, là pour créer de la richesse pour l'actionnaire, le client, le collaborateur, le fournisseur et la société civile. Si l'entreprise crée l'une de ses parties prenantes, oublie l'une de ses parties prenantes dans la création de richesse, alors elle meurt. L'entreprise crée de la richesse pour, dans l'ordre alphabétique, qui est bien agréable à ce moment-là, l'actionnaire, le client, le collaborateur, le fournisseur et la société civile. Vous me direz, comme le diable est dans les détails, alors on peut parler de diable puisqu'on parle d'âme, comme le diable est dans les détails, la question est de la proportion entre ces cinq dans la création de richesse, on est bien d'accord. Mais il me semble que c'est une définition qui fait avancer un peu notre propos et qui nous permet d'avoir une vision un peu renouvelée de l'entreprise, surtout si je remets mes lunettes, un peu renouvelée de l'entreprise par cette définition. La question que moi j'aurais comme directeur de développement durable, c'est d'essayer de répondre au dilemme suivant. Y a-t-il un principe d'égalité ou de causalité ? Je m'explique. Il me semble qu'une entreprise qui veut penser son moyen terme, et le problème des 30 dernières années était d'une vision non seulement que de la bottom line de profit, mais de la bottom line du profit de l'année et pas celui des années successives. Donc comment je gagne beaucoup d'argent cette année, puis on verra bien si les années suivantes on en gagne moins. Eh ben, on quittera cette entreprise, on ira dans une autre. Schneider Electric investit 5% de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement. L'actionnaire du court terme considère que ces 5%, c'est de la perte d'argent. L'actionnaire du court terme préférerait largement que ces 5% soient un bénéfice du court terme complémentaire pour pouvoir en profiter et s'en aller. Distraire 5% de son bénéfice pour faire de la recherche et développement, c'est penser au moyen terme. Donc c'est faire ce choix courageux, je ne sais pas comment vous l'appelleriez, de mettre du moyen terme dans le court terme pour d'abord permettre d'avoir des investisseurs de moyen terme qui restent plus stables dans le capital et puis avancer. Et moi je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, une entreprise qui ne réfléchit pas à sa contribution au bien commun n'a pas d'avenir. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si l'entreprise qui comprend bien que pour servir son actionnaire, est-ce que c'est l'entreprise qui comprend bien que pour servir son actionnaire, elle doit servir un deuxième objectif, qui est de servir toutes les autres parties prenantes, et c'est en comprenant bien comment elle sert la société civile, qu'elle va pouvoir mettre sur le marché les produits adaptés à son avenir, attirer des jeunes qui recherchent du sens dans leur emploi pour pouvoir innover pour demain. La question c'est, est-ce qu'elle fait ça strictement pour servir son capital ou est-ce qu'elle fait ça de manière égale, ça s'appellerait le principe un peu de cause à effet, de causalité, ou est-ce qu'elle fait ça pour servir de même manière le bien commun et le capital ? On pourrait réfléchir sur ces deux différences de vision. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il me semble que dans l'enjeu de l'entreprise à mission ou de la définition renouvelée du monde de l'entreprise, sujet très intéressant parce que il a fallu qu'il y ait une réflexion sur le fait que on allait changer la définition de l'entreprise dans le droit pour se rappeler qu'il y avait une définition d'entreprise dans le droit. Ce qui veut dire que c'est pas forcément là que les choses ont beaucoup évolué, puisque celle d'avant n'a servi à rien, tout le monde oubliait qu'il y en avait une. Alors au moment où on la change, peut-être que ça change quelque chose, mais c'est pas le moment essentiel de l'évolution de la chose. Moi, il me semble que nos entreprises sont aujourd'hui en train de créer des outils de nature à mobiliser autrement leurs collaborateurs et à comprendre mieux le monde. C'est pas un truc très nouveau. Il y a eu en France en particulier, puisqu'on parle ici en France, des éléments sur le sujet. Claude Bébéard, en 1985, a créé l'Institut, je ne sais plus son nom, du mécénat de solidarité. C'est une entreprise qui se dit qu'elle doit faire ça et qu'elle doit, etc. Peu de temps après, dans les années 90, le patron du CNPF de l'époque, qui s'appelait Monsieur Gandois, a créé le concept qui a de plus évolué de l'entreprise citoyenne. Qui n'est pas si loin de ce qu'on dit là. Après, on a beaucoup parlé de la RSE, qui est une démarche polymorphe. Après, on voit des problèmes à l'international. 2013 en est un, ça s'appelle le Renzo Plaza et son drame en Bangladesh qui a amené pas mal de lois dans le monde et en France qu'on appelle la loi du devoir de vigilance, c'est-à-dire la nécessité qu'ont les entreprises d'avoir un avis sur les réalités sociales, environnementales et de gouvernance de leurs fournisseurs. On a un certain nombre de points qui avancent. À Paris, il y a eu la COP21. Sur le climat. C'est très intéressant parce qu'à la COP21 sur le climat a été avancé un concept nouveau. Jusqu'à ce moment-là, quand on parlait du climat, c'était une question des sociétés civiles et des États. Et les entreprises n'avaient pas à s'immiscer ou à rentrer dans ce sujet-là. Et à la COP21 sur le climat, le pouvoir français socialiste a inventé un concept devenu mondial de l'agenda des solutions. Et l'agenda des solutions, ça n'est rien d'autre que d'inviter les entreprises à se faire la courte échelle ou à jouer au concours pour savoir laquelle met sur le marché les meilleures solutions pour être de nature à moins ridiculiser l'idée qu'on veut réduire le changement climatique et à mettre sur le marché et à populariser des démarches nouvelles pour avancer sur le sujet. Parce qu'au fond, si les entreprises ne se mobilisaient pas sur le sujet, on ne serait pas dans la démarche circulaire de faire croître la prise de conscience, l'engagement et la capacité de le vivre. Si aucune entreprise n'a innové, inventé le tramway électrique, aucune collectivité ne pouvait installer un tramway électrique. S'il n'y a aucune entreprise petite, le paysan, moyenne ou grand, n'investit dans la nourriture bio, aucun acteur qui veut manger bio ne peut manger bio. Il y a bien une nécessité de l'engagement de l'entreprise qui, au fond, répond à une demande de la société, y trouve son intérêt, fait croître la demande de la société, lui donne vie dans l'acte d'achat que je peux faire cohérent avec mes convictions qui vont grandir parce que l'acte d'achat va me permettre de le faire grandir. Il me semble qu'il y a une côté circulaire où je ne sais pas très bien quel est le premier dans la poule et l'œuf, mais en tous les cas, il y a une croissance de ce sujet-là, des linéaires dans les entreprises dont on imaginait qu'elles vendraient jamais de produits bio, de la création de nouvelles initiatives, soit associatives, soit d'entreprises, qui permettent de répondre au sujet. Moi, il me semble que la réponse peut être dans le droit. Alors, comme je suis un fan de la jeunesse, et que je pense que c'est la jeunesse qui permet de penser le monde de demain, et que elle est sur une planète, elle n'en a qu'une, elle n'en a pas d'autre, elle a une... On est dans un monde qui a une particularité. Vous allez croire que c'est loin du sujet. Pour moi, c'est au centre. On est dans un monde qui a deux particularités. Premièrement, toutes les matières premières qu'on imagine sont aujourd'hui en réduction. Et on a une inquiétude des matières premières alimentaires ou métalliques, etc., pour pouvoir continuer le développement dans lequel on est. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas le continuer dans lequel on est et embarquer la planète entière. Et donc on est tous en face de ce mur qui est que la manière qu'on a de consommer, singulièrement quand on est européen ou américain, n'est pas possible pour la planète et nous conduit dans l'incapacité de l'avenir. Il y a deux seules ressources qui aujourd'hui sont en très grande croissance de disponibilité. Il y a les data. Vous et moi, on n'est pas un spécialiste du sujet, mais quand on est né avec Internet dans la main, ça permet de vivre et de penser très autrement le monde. Et de donner naissance à des projets qui ne sont pas pensables sans les datas. On en prend deux, très simples, français. Une application créée par trois jeunes de moins de 20 ans, qui ont 25 ans aujourd'hui, qui s'appelle Yuka, qui permet à chacun d'entre nous, quand on est en train d'acheter dans n'importe quel magasin, n'importe quel produit, si il respectera ma santé, s'il y a dedans des agents nocifs ou pas, etc., jusqu'au point, puisqu'il y a plus d'un million de Français qui l'utilisent tous les jours, à changer probablement l'industrie alimentaire avec ce sujet, c'est perfectible. Et puis il y a aussi deux jeunes qui ont 22 ans aujourd'hui, qui ont créé une structure qui s'appelle Open Classroom, passionnant. Open Classroom, c'est une entreprise à mission, une des premières entreprises à mission françaises, qui a une grande partie non-profit. 20 000 personnes prennent des cours sur Open Classroom tous les jours. Plutôt des jeunes, etc. C'est gratuit. Et le modèle économique de cette structure qui a 150 salariés, c'est que ceux qui veulent passer des cours à passer un certificat, un degré, un diplôme ou être coaché, payent pour cette partie-là, qu'il met en relation Open Classroom avec l'Académie de Paris pour ce qui est des Français. Et il y a des examens et il y a un diplôme à la fin qui est le même diplôme qu'on passerait n'importe où ailleurs, dans un établissement, etc. Ils ont 25 ans. Dans les deux cas, ils ont inventé quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avons inventé. Ils ne l'ont fait que parce qu'il y a la croissance des datas et que même si on n'y comprend pas grand-chose, ça change beaucoup, ça a changé la communication, ça va changer la manière de faire la maison demain, de voyager, etc. Et il y a eu donc une autre matière première, ressource en croissance, c'est la jeunesse. Il n'y a jamais eu 1 milliard d'adolescents sur la planète, c'est le cas aujourd'hui. Et si vous prenez la création d'entreprises ou d'idées nouvelles, des frères Lumière aux créateurs de Facebook, c'est toujours des moins de 30 ans qui ont eu ces idées nouvelles pour changer le monde. Il y a des créateurs d'entreprises à tous âges, mais ceux qui ont changé le monde par la création qu'ils ont portée avaient moins de 30 ans. Il me semble que dans la question que nous nous posons, l'entreprise a-t-elle une âme, intégrer la jeune génération qui, plus que nous, pour une partie d'entre elles, pas tous, mais pour une partie d'entre elles, dès qu'elles rentrent dans le travail, et on le perçoit chez Schneider Electric, mélangent ses valeurs, le sujet sur lequel ils veulent travailler, la manière d'organisation de l'entreprise, et sinon ils changent d'entreprise, sont peut-être de nature, et cela au niveau mondial, d'accroître la dimension de l'âme de l'entreprise et de faire en sorte que l'entreprise fasse société, ce qui est probablement une manière de dire que l'entreprise a une âme et qu'elle est elle-même responsable de la cité, parce que sans la cité C-I-T-Y, C-E-T-E, parce que sans la cité, elle n'a pas d'avenir, et que donc pour avoir un avenir, il lui faut une cité de qualité, il lui faut respecter les 17 enjeux du développement durable, ou comprendre que c'est dans ceux-ci qu'elle doit s'investir pour penser son avenir, et donc quand l'entreprise fait société, probablement qu'elle se donne du sens, à vous d'ajouter si après ce sens il y a l'âme, je n'irai pas si loin.
Merci à nos deux intervenants. Voilà, cet applaudissement marque la fin de la première partie et nous pouvons entrer dans notre débat. Peut-être je vais laisser la parole quelques instants à Olivier Favreau s'il avait des questions à poser. On sent qu'il n'y a pas forcément de désaccord entre eux, mais enfin peut-être une sensibilité un peu diverse. Est-ce que petite réaction brièvement à propos de...
Oui. Non, moi, je suis toujours passionné et extrêmement modeste devant les bilans d'expérience d'une entreprise. C'est une forme de test pour un universitaire ou un chercheur qui essaie de raisonner sur des modèles généraux, qui était un test un petit peu impitoyable. En réalité, et là, je me dis que vraiment cette tribune a été très bien constituée parce qu'on vous a offert... vous n'allez pas sortir de là avec l'idée qu'il y a, enfin j'espère, une vérité sur l'entreprise. Et on vous a offert deux généralisations un peu abusives. Il y a la mienne, j'ai parlé effectivement de l'entreprise en général, parce que comme vous l'avez dit très justement, en gros, avec une définition statistique ordinaire, il y a 3 millions d'entreprises en France. En France, 3 millions. Qu'est-ce que je peux dire de sensé qui couvre toutes les entreprises? Et en même temps, le droit est bien obligé de le faire, la politique est bien obligée de le faire, etc. Donc, à nos risques et périls, les économistes, les juristes, les sociologues essayent d'attraper des choses générales. Et puis, il y a une autre généralisation, non moins abusive, mais tout aussi intéressante, qui est de vous décrire dans le détail une expérience. Et là... en l'espèce, c'est une expérience particulièrement intéressante de fonctionnement d'une entreprise où, c'est vrai, la place, j'ai bien noté, dans l'entreprise Schneider, le fait que les salariés soient aussi massivement actionnaires est évidemment, je ne sais pas quel est le pourcentage.
6%, c'est bon.
Ah, 6%, d'accord. Mais vous dites que ça joue un rôle important dans la stabilisation du... Ou en tout cas, vous devez...
Non, je dis que c'est les seuls qui sont probablement stables dans l'actionnariat de Schneider.
Oui, qui sont les plus stables. Alors, dans cet exemple, ce qui est très intéressant, c'est l'opération qui consiste, un peu à l'inverse du raisonnement que j'ai fait ou que nous avons fait au Bernardin, qui est d'inciter les salariés à devenir actionnaires, qui est une façon, effectivement, d'ancrer les salariés dans l'entreprise, mais... On peut considérer d'abord que c'est une opération qui a ses risques et surtout qui a le risque intellectuel que j'ai bien vu dans le débat parlementaire sur la loi Pacte. C'est un des grands arguments utilisés par le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Ce n'est pas la même chose, vous voyez, de donner plus de place ou plus de pouvoir de gouvernance aux salariés en tant qu'actionnaires.
Bien sûr.
Ou de leur donner, comme c'est le cas, je le répète, dans 12 pays d'Europe, en tant que salarié. Là, il y a une différence de conception. Alors, je n'ai vraiment aucune critique à faire sur les formes de participation et autres et intéressements qui vont d'ailleurs être développées dans la loi Pacte, dont je n'ai pas du tout parlé. Mais je pense qu'il y a un enjeu beaucoup plus profond à faire en sorte que les salariés se sentent chez eux dans l'entreprise en tant que salariés et pas parce qu'ils ont acheté des actions. Mais il y a beaucoup d'autres choses passionnantes et vous avez tout à fait raison, le rapport Nota-Sénar a été un peu aimanté par les grandes entreprises et c'est très difficile de tenir un discours général qui attrape, vous voyez, la totalité de l'éventail entre les entreprises, il n'y a qu'un seul salarié, aux plus grandes entreprises.
Merci. Alors, je suppose que vous êtes impatient de poser des questions. Donc, ce que je propose, c'est que Gilles Vermeau-Desroches réagisse au propos de Monsieur Favreau en répondant aux questions tout à l'heure. Nous allons prendre les questions par deux ou trois. Alors, il y a une question au fond de la salle, tout en haut, là-bas. Si vous voulez bien relever le doigt, monsieur, qu'on vous repère.
Oui, ma question porte sur Monsieur Vermeau-Desroches. Il y a eu un grand économiste français qui s'appelait François Pérou et qui a probablement créé la science économique dans les universités françaises après-guerre. Et il avait eu cette phrase qui m'a toujours un peu obsédé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et ça, au fond, ça rejoint un peu l'entreprise a-t-elle une âme ? Et toutes les problématiques tout à fait justifiées que vous avez posées qui soulèvent quand même les limites de cette belle expression. Au fond, il disait qu'il y avait deux périls pour une entreprise. Le premier, c'était une efficacité insignifiante. Et le second, c'était un sens inefficace. Effectivement, c'est une phrase, c'est une formule. Mais je trouve qu'elle décrit assez bien, qu'elle couvre assez bien la problématique d'aujourd'hui. Ensuite, je voudrais poser une seconde question qui revient sur votre capital flottant. Je crois qu'effectivement, là, vous soulevez le vrai problème et la vraie limite de l'entreprise, disons, citoyenne ou qui a du sens, etc. Effectivement, vos actionnaires sont particulièrement fondés de peut-être se diriger vers d'autres entreprises s'ils constatent que leur rentabilité est insignifiante ou insuffisante. Et c'est bien là le vrai problème. Alors c'est peut-être cynique, c'est peut-être tout à fait, ma foi, décourageant parfois, mais c'est quand même la réalité. Et la question que j'ai, je voulais savoir si d'après vous, le fait qu'il y ait eu tous ces fonds de pension qui ont permis de développer le capitalisme mondial, est-ce que vous ne pensez pas que ça a un peu dénaturé le capitalisme qui, peut-être avant la Seconde Guerre mondiale ou jusque dans les années 60, se reconnaissait dans des grands chefs d'entreprise où il y avait à la fois le capital à rémunérer, mais il y avait le produit à fabriquer. Monsieur Boussac, c'était le textile. Monsieur de Vindel, c'était les forges. Peut-être que votre fondateur, c'était l'électricité. Et au fond, ils étaient aussi attachés, ou autre chose, excusez-moi, je ne connais pas bien l'histoire de votre entreprise. Et au fond, ils étaient attachés à cette marque, à ce produit. Et est-ce que le fait d'avoir créé ce capital flottant, enfin créé, c'est pas qu'il a été créé, mais s'il s'est construit par lui-même, et d'avoir atomisé ce capital, fait qu'il devient complètement abstrait, et ce qui intéresse les gens qui en détiennent, c'est tout simplement la rentabilité.
Merci. Merci beaucoup. Une autre question ? Alors, cette question comportait... Oui ? Il y avait déjà deux questions, en fait, donc une troisième.
Oui, une petite question à Monsieur Favreau sur la raison d'être qui apparaîtrait dans les statuts de l'entreprise. Quelle nuance faut-il percevoir entre la raison d'être et la raison sociale?
Bien, alors, Gilles Vermeau-Desroches.
Bon, il y a quand même toujours la confrontation à la réalité du monde dans la question que vous dites. Si on prend un exemple très précis, la capitalisation d'Apple aujourd'hui est égale à la capitalisation des 40 entreprises du CAC 40 ensemble. 1000 milliards de dollars. Alors, on peut, dans ce débat ce soir, le regretter, s'en étonner, vouloir que ce soit autrement, il se trouve que c'est comme ça. Je ne suis pas un capitaliste primaire ni propriétaire, Bon, il se trouve que dans les modèles que le siècle précédent a inventés, celui-là semble ne pas être le plus mauvais, sans qu'on puisse s'affirmer qu'il soit vraiment très bon. Et qu'on est aujourd'hui dans cette réalité double pour les Français, me semble-t-il, sans pour aller trop vite, et moi je ne suis pas analyste, je suis acteur. Faut bien se confronter à ces trois chiffres-là. Le premier, quand on voit ce fait que des gens qui mettent de l'argent, le métier Apple et pas dans les autres boîtes, enlève aux autres boîtes la capacité d'investir, d'emprunter, etc. Le truc est assez simple. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour moi. Si j'ai pas assez d'argent, si je ne vaux pas assez d'argent quand je veux avoir un appartement différent, il sera pas le même si j'ai pas ça derrière, quoi. Donc là, il y a une réalité mondiale qui est là, premièrement. Dans cette même réalité mondiale, il se trouve que la France a un petit déficit ou un petit handicap, que la loi va pas changer grand chose, me semble-t-il. C'est que la France est un des pays industrialisés qui a le moins poussé et même quasiment interdit, ou en tous les cas prohibé, le fait que les Français soient propriétaires de leur entreprise. Ce qui fait que nos entreprises françaises sont plutôt propriétaires des étrangers. Par exemple, en Italie, qui a des problèmes de dette, etc., les Italiens sont propriétaires et de la dette et des entreprises. Ce qui change tout à fait la question par rapport aux Français. C'est un deuxième donné. Et puis une troisième donnée qu'il faut donner dans ce sujet-là, c'est que moi j'ai toujours été impressionné. Vous n'allez pas croire aux chiffres que je vais vous dire. Dans la philanthropie mondiale, la moitié aujourd'hui est faite par Bill Gates, Mark Zuckerberg et Warren Buffett. Ils représentent à eux trois la moitié de la philanthropie mondiale. La fondation de Bill Gates a 1800 salariés. Je suis pas pour, hein, vraiment, le français que je suis, tout ce que vous voulez, vraiment. Mais à nouveau, c'est un fait. Un fait, moi qui fais beaucoup de choses en Afrique. Chaque fois que vous rencontrez des gens en Afrique, ils croient toujours qu'ils sont en train de faire un dossier pour la fondation Bill Gates et ils attendent toujours du petit donateur que mon entreprise est, 3 zéros de plus que ce qu'on a, et souvent avant la virgule, ce qui rend les choses impossibles. Donc, globalement, on est dans un monde où il faut se confronter à cette réalité. Réfléchir ensemble, donner des définitions au monde de l'entreprise, etc., c'est important, mais il y a des trucs de fond qu'il faut probablement faire pour faire en sorte que les entreprises françaises réappartiennent davantage aux Français. Voilà, il y a des sujets qui sont liés à la retraite, qui sont la manière d'investir, etc. Après, pour faire toujours une petite plaisanterie que j'aime, les investisseurs français dans le capital de Schneider sont pas plus doux que les investisseurs étrangers dans le capital de Schneider. Hein. C'est aussi parce que chacun d'entre nous, quand on investit et qu'on va voir le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la caisse, la Société Générale, LCL, la Banque Populaire et tous les autres, la BNP, on n'a pas beaucoup mobilisé notre épargne dans l'épargne solidaire. On n'est pas tous allés comme un seul homme, les Français, parce que, ou même les cathos, ou même qui vous voulez, en disant à nos banques, moi je veux épargner dans l'épargne solidaire. Schneider Electric est la boîte française qui a le plus de fonds d'épargne solidaire dans le monde, 126, ça représente aussi 5% de son capital. C'est une épargne assez intéressante parce qu'elle est de moyen terme. Mais globalement, on peut se plaindre de la situation, on peut maudire les ténèbres, allumer une lanterne dans les ténèbres, c'est que chacun d'entre nous aille plus faire grossir l'épargne solidaire française, qui grossit pas d'année en année ou très très peu. Il y a là-bas au fond quelqu'un qui, dans mon équipe, gère le fonds d'épargne solidaire de Schneider Electric dans lequel les salariés et l'entreprise investissent. Bah, on pourrait souhaiter que tout le monde investisse un peu plus, mais finalement, chacun d'entre nous, devant le guichet de notre banque, on aimerait bien avoir une rentabilité un peu meilleure. C'est un sujet qui n'est pas loin de notre sujet d'aujourd'hui. Parce que le banquier, l'investisseur est mauvais de loin, mais quand on est un peu dedans, bah, c'est aussi nous. C'est pas nous qui allons changer la finance mondiale, mais quelque part, il y a ce sujet-là. Et pour finir, moi, il me semble, par rapport à la définition que vous donnez de l'efficacité insignifiante ou du sens insignifiant ou inefficace, c'est l'un ou l'autre des deux problèmes. Oui, alors après, moi, c'est ma conviction. Il y a peut-être des entreprises où je me vois pas travailler. Pour faire des exemples, je pourrais pas essayer de les mettre sur la table, mais moi, comme je suis fait, avec les valeurs qui sont les miennes, je suis content d'être chez Schneider. Il y a beaucoup d'autres boîtes où je pourrais travailler. Il y a des entreprises qui mettent sur le marché des produits dont je me dis que je n'ai pas envie de travailler pour faire avancer et vivre ces entreprises-là. Il se trouve que, paraît-il, c'est une réalité assez forte de la jeune génération. C'est dire que pour demain, mettre sur le marché, pas tous, ces entreprises-là trouveront des gens. L'important, c'est d'avoir les talents qu'on le choix. Les talents qu'on le choix aujourd'hui, parce qu'on n'est pas tous égaux sur ce sujet-là, préfèrent mettre leur capacité d'innovation, de management, etc., dans des entreprises qui ont du sens, qui savent le dire, qui savent l'imprimer, et qui les attirent et qui les embarquent à faire quelque chose. C'est une partie de la solution, me semble-t-il.
Merci, Olivier Favreau. Vous avez une question sur la raison d'être. Vous pouvez peut-être réagir à ce propos, si vous le souhaitez.
Non. J'ai trouvé moi aussi très belle la formule de François Perroux. Si le copyright n'est pas trop cher, je l'adopte immédiatement. Et je vais répondre à la question sur la raison sociale et raison d'être. Alors, toute entreprise a une raison sociale, mais toute entreprise n'a pas une raison d'être. La raison sociale, donc, ça va être la dénomination, le nom de l'entreprise. Tandis que raison d'être, je vous rappelle, c'est les statuts peuvent préciser dans la proposition qui est optionnelle, que propose le nouvel article 1835 et qui vient directement du rapport Nota Sénart. La raison d'être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect duquel elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc c'est une espèce de modèle normatif, mais un petit peu concret, impliquant à la fois le domaine dans lequel l'entreprise veut intervenir, mais la façon dont elle veut intervenir. Alors, sans trahir les secrets de la commission Nota Sénart, je crois que cette idée était très chère à Jean-Dominique Sénart, et que pour lui, c'était une façon de déconnecter la notion d'entreprise et de société d'un lien trop fort avec une entreprise, ça doit absolument gagner de l'argent si ça veut survivre. La déconnecter de cela pour mettre l'accent sur ce qu'elle fait dans le monde réel. Et puis, c'était pour lui, et je pense aussi pour le législateur, si du moins la loi se stabilise dans l'état auquel elle est, pour le législateur, c'était un moyen de préparer le terrain pour les entreprises à mission, puisque là, la raison d'être devient quelque chose d'extrêmement engageant du point de vue du point de vue social ou écologique, mais avec un degré de précision beaucoup plus grand que dans la simple caractérisation de la raison d'être.
Il a mis la gomme.
Oui, il a fait preuve de beaucoup d'énergie et de puissance de conviction pour imposer cela, parce que, comme c'est dit quelque part très discrètement dans le rapport Nota Sénart, alors là, pour le coup, raison d'être n'est pas vraiment un concept juridique habituel. Mais les hauts fonctionnaires qui travaillaient avec Nicole Nota et Jean-Dominique Sénart ont réussi à trouver, alors je crois, un arrêt de la cour d'appel, je ne sais plus où, en province, où il est question de raison d'être. Alors ils se sont précipités là-dessus pour dire non, ce n'est pas une innovation absolue, ce n'est pas un ovni.
C'était à Clermont-Ferrand, bien sûr.
Moi, je suis très favorable à tout ça et on travaille avec mon équipe à quelle va être la raison d'être de Schneider Electric. On sera prêt avant que la loi soit passé dans un décret, etc. Nonobstant, ça vaut le coup de se partager que le patronat français, dans son organisation, est contre. Il le dit plus ou moins fortement, mais il est plutôt contre. Alors pourquoi il est contre? C'est à prendre en compte. Il est contre parce qu'il a peur que cette raison d'être ainsi affichée soit opposable. Alors on va dire que ceux qui veulent qu'elle soit ainsi affichée rêvent qu'elle soit opposable. Mais il a peur qu'elle soit opposable parce qu'au fond, la question qu'on peut élargir pour l'avenir... Il y a une première question que vous avez beaucoup portée, si vous me demandez de réagir au propos d'Olivier Favreau, une question que vous avez beaucoup portée qui est de dire, c'est quand même un peu ridicule de dire qu'il y a seulement le capital financier qui assume la gouvernance de l'entreprise et au fond, le capital humain, on peut le dire comme ça pour être rapide, devrait aussi participer à cette manière de l'assumer. Avec une petite particularité quand même, que si demain des salariés veulent quitter l'entreprise pour aller ailleurs, il y en a d'autres on saura en recruter d'autres, en tous les cas, dans des lieux de chômage. Alors que si les capitalistes s'en vont tous, c'est plus complexe. Mais il y a un bout de... Moi, je suis d'accord là-dessus, sauf que le 21e siècle ouvre sur une autre organisation qui fait que celle-ci, avec ou sans le capital social dans la gouvernance, est obsolète. C'est le capital naturel.
Aujourd'hui, au fond, une entreprise, elle devrait être pilotée par une gouvernance de trois corps sociaux, ceux qui représentent l'argent qui est placé dans l'entreprise, c'est l'habitude, probablement ceux qui représentent la force, l'énergie, l'innovation, la compréhension, la capacité, qui donnent tout leur temps à cette entreprise, même s'ils sont rétribués pour le faire, capital social, puis aussi ceux qui représentent le dommage que cette entreprise pourrait faire au footprint de la planète, à la réalité sociale de la planète, ce que j'appelle le capital plus immatériel, qui représenterait les générations futures, la planète dans sa dimension environnementale et la planète dans sa dimension sociale, et que ceux-là ont aussi quelque chose à dire sur une entreprise qui viendrait largement endommager le futur de l'humanité et de l'endroit où elle se situe. Et probablement que si on veut aller à l'étape d'après, l'organisation d'une gouvernance cohérente d'une entreprise, qui probablement, puisque la gouvernance serait cohérente, lui donnerait plus d'avenir et plus de légitimité, c'est une réflexion de ces trois capitales ensemble. Alors il y a un bout de réflexion. Par exemple, Veolia a inventé une structure qui s'appelle The Critical Friends, qui n'est pas membre du conseil d'administration, mais qui est un ensemble de personnes qui représentent la société civile et qui vient donner son avis sur la stratégie de Veolia au patron de Veolia. Ce qu'on appelle les comités parties prenantes qui font aussi partie de la loi, etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui avancent, des logiques qui avancent, mais qu'il me semble qu'on ne peut pas enfermer l'entreprise strictement dans un pas de deux entre le salarié et l'actionnaire. Il y a un pas de trois avec la génération future, la planète qui lui appartient et qu'on lui a emprunté, et que celui-ci est pour le coup encore moins représenté dans la décision de l'entreprise que le sont les salariés.
Vous souhaitez réagir sur cette entreprise entre la valse et le tango?
Absolument, les deux valseurs ou les trois valseurs. Alors Gilles Vermont-Desroches vient de toucher un point extrêmement important, et cette idée de, au fond, une entreprise c'est trois stocks de capital, les termes ne sont pas très beaux, capital financier, capital humain, et puis le capital naturel, je voulais vous le signaler, aurait évidemment une conséquence du premier ordre sur le langage comptable, qui est là aussi complètement dominé par une certaine conception financière de l'entreprise à l'anglo-saxonne. Et il y a, alors je vais me la donner deux noms très précis, il y a à Dauphine, un travail très important, et je crois vraiment d'avenir, qui est pour réécrire toute la comptabilité d'entreprise, repenser la comptabilité d'entreprise à partir de cette idée des trois capitaux à maintenir, Alexandre Rambaud et Jacques Richard, je ne sais pas si vous les connaissez. Alors ça, c'est là, nous sommes en complet accord. Alors, là, par contre, une question très complexe est de savoir si la traduction de cette nécessité de faire évoluer le langage comptable, ça doit se traduire par une représentation à part égale dans les instances dirigeantes. Ça, c'est une autre question, même si on est complètement d'accord sur l'idée qu'il faut absolument préserver ces trois capitaux. Et la tendance, je crois d'ailleurs, y compris d'ailleurs dans le cas de Veolia, serait plutôt parce que, vous voyez, les représentants du capital naturel sont plus difficiles à identifier que les représentants du capital humain. Bon, qui sont c'est évident. Et donc l'idée serait plutôt de confier la gestion du conseil d'administration ou de surveillance aux représentants des deux capitaux financiers et humains, mais de rendre cette entité-là responsable vis-à-vis du reste du corps social au niveau de la préservation du capital naturel avec un comité style comité des parties prenantes. C'est un point effectivement très important.
Est-ce que je peux me permettre d'avoir une réaction un peu vive là-dessus, parce que Je trouve quand même formidable qu'on agite maintenant des idées que vous avez un exemplaire de Futurible sous les yeux, que Bertrand de Jouvenel a déjà soulevé dans les années 60 sur le capital naturel. Dans les années 60. Donc depuis cette époque, qu'est-ce que les chefs d'entreprise et les économistes ont fichu? Non, mais c'est extraordinaire. Si en médecine, on allait au même rythme, on en serait quand même encore à la pré-pénicilline, quoi.
Oui, enfin, ils ont un peu fichu ce que les sociétés civiles leur ont poussé à faire ou pas à faire. Enfin... tout ça est de la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'il y a une question de pression, Quand on met sur le marché des produits qui ne sont pas adaptés à la demande du public, l'entreprise qui fait ça n'a pas beaucoup d'avenir. Sur ce sujet-là, les acteurs de la prospective, c'est le cas de Hugues, les acteurs de la prospective mettent des idées sur le marché qui sont des idées de prospective qui ne passent pas du jour au loin.
Non, mais c'était déjà le cas de son père.
Oui.
C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est des idées sur la prise en compte des ressources naturelles dans l'évaluation comptable des entreprises,
oui,
dont personne ne veut.
Bon, on réinvente des idées chrétiennes qu'on 20 siècles et pourtant, on a mis du temps à les mettre en œuvre.
Excusez-moi, d'autres questions.
Une dame. Excusez-moi.
Je voudrais vous poser une question, parce qu'on parle des entreprises, a-t-elle une âme? Justement, vous, Monsieur Gilles, vraiment décroche. Dans votre société, est-ce que vous discutez, c'est-à-dire, est-ce que vous faites part à votre entourage, tous vos projets à un niveau, que tout le monde participe avec tout? Parce qu'une âme, ça veut dire participer, donner son mieux pour que la masse, toute entreprise marche. Justement, on a parlé des finances, c'est une chose. Mais là, on parle de l'âme. L'âme, parce que l'employeur, qui se sent concerné, qui participe, même selon une certaine façon, il est concerné, il donne son meilleur. C'est ça que je veux soulever sur une âme. Ça veut dire, il donne ses meilleurs.
D'accord.
Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Parce que c'est ça qui donne à la société toute son énergie. Et ça, c'est aussi la France. Il faut aimer la France aussi.
Voilà. Pardon. Merci. Une autre... Oui.
Moi, j'ai une question, parce qu'on parle toujours, là, depuis le début du débat, de l'entreprise individuellement, en fait. Et là, on est arrivé sur les questions d'environnement, etc. Et je me dis qu'au lieu de penser les entreprises individuellement, donc aussi dans le cadre actuel, en situation de compétition, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas des réflexions à faire pour essayer de penser les entreprises de manière plus interactive, etc., et de voir comment pour répondre à la situation écologique on pourrait mettre les ressources en commun pour orienter les choses de manière plus cadrée, parce que sans ça, chaque entreprise a sa stratégie, etc. Je sais pas si comme ça on y arrive, quoi, en fait.
J'ai un bout de réponse, mais alors j'ai un bout de scandale dans cette réponse, on sent bien là. Il se trouve que, d'origine très catholique, la fille aînée de l'Église a donné naissance à un pouvoir très institutionnel et dans lequel on considère que l'État est très régulateur. Et quand on a la chance d'être dans une entreprise mondiale comme Schneider Electric, on est confronté à des structures de société qui sont très différentes et beaucoup de pays où il n'y a pas du tout d'État régulateur. Et dans les pays où il n'y a pas d'État régulateur, il me semble qu'on a poussé les sociétés civiles, par exemple le nord de l'Europe, à être sur beaucoup de sujets beaucoup plus intelligents, individuellement. Et que l'intelligence des sociétés civiles est aussi une manière d'être un driver pour le monde de l'entreprise, probablement plus que la confiance qu'on fait quand on est en France, de vouloir que les entreprises suivent les règles de l'État régulateur. Je ne sais pas si je me fais comprendre sur le sujet, mais il me semble avoir un peu dans le monde. On a un modèle, nous, ici, où chacun d'entre nous, on considère, et c'est un peu l'objectif de l'entreprise à mission, de la définition du rapport Sénard, de demander à l'État de dire comment l'entreprise doit se conformer, sans forcément pousser les sociétés civiles à être très, très intelligentes, très au point de plein de sujets. Et ça produit un certain nombre de choses, et probablement, comme vous le dites, pas assez de cohérence. Et il me semble, à regarder... pour faire équivalence en Europe, des États moins régulateurs où les sociétés sont plus individuellement poussées à faire des choix individuels et intelligents, où il y a une dimension plus collective dans le monde de l'entreprise. Mais j'ajouterai, pour finir ma réponse, qu'une entreprise, c'est de toute façon une filière et une réalité plus élastique. Schneider, à 30 milliards, je vous l'ai dit, 60% est reversé à ses fournisseurs. 60%. Donc la relation entre ses fournisseurs, leurs fournisseurs et Schneider, pour apporter le produit final, est essentielle. Donc ce que vous dites existe déjà un peu. Après, il y a une logique de concurrence entre des entreprises, et il se trouve que dans cette logique de concurrence entre les entreprises, arrive un mot qui n'est pas grossier dans notre débat, qui est celui de l'innovation, parce que le progrès naît aussi de l'innovation. Il a ses limites, il a etc., mais tous ceux qui y voient une très grande limite préfèrent aussi vivre avec les technologies d'aujourd'hui qu'avec celles qui n'existaient pas hier. Et donc on est, me semble-t-il, dans cette double nécessité de rendre le client final ou intermédiaire plus intelligent sur les réalités globales pour qu'il fasse ses choix, et en faisant ses choix, qu'il pousse ses entreprises à respecter mieux le bien commun. C'est un peu ça la question, me semble-t-il. Alors on peut trouver d'autres types de structuration. Il me semble que celle-là n'est pas mauvaise d'attendre de nous, des autres, qu'on fasse des choix de consommation qu'invite l'entreprise à être responsable.
Olivier Favreau, votre réponse à cette question qui sera aussi la conclusion de ce débat, parce qu'on a déjà largement dépassé, sans s'en apercevoir, le temps qui nous était imparti.
Alors, il y a deux éléments qui pourraient commencer à apporter un peu de réponse à cette immense question. Et évidemment, les entreprises, elles fonctionnent en système, elles se font concurrence les unes aux autres, il ne suffit pas de les réguler à un endroit, c'est l'ensemble qu'il faudrait réguler. L'échange que nous avons eu tout à l'heure sur la comptabilité, le langage comptable, ça c'est une des rares institutions qui soit mondiale et qui s'impose de façon absolument autoritaire aux entreprises, en tout cas qui veulent accéder aux marchés financiers et aux financements internationaux. Malheureusement, pour le moment, comme vous le savez, les pays d'Europe ont été incapables de se mettre d'accord et ont complètement sous-traité la question de ce langage comptable à un organisme privé qui se trouve à Londres. Donc là, il y a des choses à faire. Deuxièmement, il y a tout un courant chez les juristes, et là pas uniquement en français, même au contraire, y compris chez les juristes anglo-saxons, en faveur d'un processus de constitutionnalisation, et là certains des membres de notre groupe ont travaillé sur cette question, un processus de constitutionnalisation qui serait applicable aux firmes transnationales. En partant du diagnostic suivant, au fond, tout à l'heure j'ai distingué, vous savez, personne morale, de droit public, de droit privé, les constitutions, au sens de la constitution de la Ve République, c'est résulte d'un mouvement qui a commencé en Angleterre, qui s'est généralisé au XIXe et au XXe siècle, pour canaliser les pouvoirs des personnes morales de droit public. Aujourd'hui, et donc je ne dis pas que le processus soit achevé, mais il est quand même, et ni satisfaisant, mais il est quand même bien en place. Aujourd'hui, l'urgence, c'est plutôt de canaliser le pouvoir de ces puissances que sont les personnes morales de droit privé correspondantes aux firmes transnationales. Avec cette difficulté que là, on ne pourra pas aller du sommet, il n'y a pas un État mondial vers les entités qui sont à la base. Donc là, tous ces juristes réfléchissent sur des processus plutôt bottom-up qui partent d'actions et de comportements à un niveau microéconomique pour procéder ensuite par généralisation. Et là, probablement, l'autorité judiciaire jouera un rôle très important. Tout ça est embryonnaire, mais tout ça existe. Et à ce moment-là, il faut chercher constitutionnalisation.
Bien, merci à l'un et à l'autre pour ces échanges passionnants. Nous n'avons pas vu le temps passer. Et nous nous retrouverons pour un prochain mardi d'éthique publique le 15 janvier. Et nous n'en avons pas encore fixé le thème, vu que l'actualité semble assez mouvante et que nous verrons comment décider du sujet du premier débat de mardi d'éthique publique de 2019. Et je vous rappelle donc que vous pouvez trouver un entretien d'Olivier Favreau à la revue Études dans le numéro de septembre 2018.
Et futurible.
Et futurible.
Un article de... Pardon.